passage de l'anglais au français qui fait qu'on se retrouve avec la chute de la maison au fil savant.
Donc, moi, enfin, je l'ai écrit originellement en anglais, donc sous le titre de House of Shattered Wings, la maison aux ailes brisées. Donc, il y a eu un peu de l'inflation à la traduction. Je dois dire que quand Stéphane Désert m'a montré le titre, je lui ai dit, mais c'est pas un petit peu long. Je pense en fait qu'il voulait faire référence à Chute de la maison des chairs et des choses comme ça qui ont un peu le même thème de décadence et de ruine. Donc, il tenait à la chute. Et à partir de là, ça devient difficile d'enlever juste argent, par exemple, parce que bon, la maison aux flèches, ça fait un peu bizarre.
Bien. Alors, est-ce que vous pouvez dire qu'il y a de la part de vous tous une sorte de fascination pour la ville de Paris, une fascination ou même peut-être une répulsion? Comment ça fonctionne? Aurélie, c'est vous, nous avons un Paris qui est doux par le mal, on peut dire ça comme ça. Est-ce que le fait que le flash parte de l'intérieur du cœur de la ville montre ce que vous pensez de cette ville?
C'est effectivement une analyse très intéressante que vous faites. Je crois qu'elle symbolise bien cette attraction, répulsion que j'ai pour ma ville, hein, Paris, où je suis né. Donc là, je l'éclate complètement au début du roman via un séisme temporel qui va en fait faire apparaître toutes les versions de Paris au même endroit. C'est-à-dire qu'on le Paris de Lutèce, le Paris médiéval, le Paris des Lumières, le Paris haussmannien, en fait tout se mélange sous l'action de ce séisme temporel et fusionne les uns avec les autres, donc ça donne une sorte de patchwork architectural absolument insensé. Alors, effectivement, cette catastrophe part de Paris et c'est peut-être et projette les personnages vers la banlieue, puis à travers la France. Ils partent vers l'Est, ils vont vers les Vosges. C'est la destination du personnage final. Presque pour Épinal. Je n'ai pas choisi Épinal, j'aurais pu, mais j'ai pris une petite ville qui s'appelle Zartigny, dans les Vosges. C'est un mouvement, je crois, qu'on peut retrouver aussi dans d'autres romans où le personnage va quitter la ville de Paris pour partir à travers une France dévastée pour retrouver le salut. Alors, c'est un texte d'André Vaughan, alors je ne sais plus le titre, où c'est un homme qui traverse la France à cheval. Comme ça, après une catastrophe, parce qu'il veut aller voir la mer.
Donc, c'est ça aussi, c'est Jean-Luc Macastel dans son Amont pour Clara, où l'héroïne s'éloigne de Paris.
Et je pense que c'est un lecteur qu'on peut retrouver souvent dans la littérature. Est-ce que ça incarne justement cette espèce de répulsion qu'on a pour la grande ville et pour se diriger vers des grands espaces? Est-ce que c'est possible? Après, moi, de façon très fun, j'avais aussi envie de m'amuser avec Paris, parce que ça, c'est vrai que graphiquement, d'un point de vue purement esthétique, il y avait quelque chose à faire avec toutes ces versions de Paris qui s'en mêlent au même endroit. Il y a aussi le séisme a aussi provoqué l'accélération du temps et a projeté beaucoup de personnes d'habitants de Paris dans l'avenir et donc il n'en reste plus que les os. Et les os fusionnent également avec Notre-Dame. Et c'était une vision qui m'éclatait de voir cette cathédrale constituée d'ossements avec perché à tête des gargouilles des ptérodactyles. Vous pouvez voir qu'il y a une espèce de grand mélange temporel dans ce roman sous l'action de ce socialisme.
Bien, on a vu que donc Aurélie a décidé de s'éloigner de Paris. Pour vous trois, on y reste plutôt. L'idée, ce n'est pas dans Paris. Est-ce qu'on peut dire que pour vous, il y avait la volonté de montrer dans votre Paris, un peu dans votre néo-Paris, que vous voyez quand vous y êtes à Paris, justement?
Alors, moi déjà je suis une urbaine dégénérée, donc j'adore les villes. laisser la place à une sorte de ville un peu Disneyland, de ville un peu en carton, qui est un fantasme de ville pour téléfilm américain, pour mauvais téléfilm américain. Et quelque part, donc dans le Paris d'un éclat givre, il y a eu une grande catastrophe, Paris est déconstruit par endroits, tombe en ruine, il y a des bouts de technologie plus avancées qu'à notre époque qui sont un peu devenues folles, il y a un cirque d'hologramme dans Notre-Dame, donc des vignogènes qui ont envahi Montmartre, le Sacré-Cœur est complètement éclaté, ça se voit sur la couverture. Il y a des endroits où c'est revenu vraiment comme au Moyen-Âge, il y a une nouvelle cour des miracles, des maisons sur les ponts parce que la ville est surpeuplée. Et quelque part, cette ville sale, surpeuplée, qui trouve tous les bouts d'énergie qu'elle peut pour survivre, je la trouve moins monstrueuse finalement que le Paris trop propre. Et finalement, hyper désincarné qu'on est en train de nous préparer, et c'est celui-là qui me fait vraiment peur.
Est-ce que Karim, vous avez voulu éviter un Paris trop propre en y introduisant les zombies?
Paris trop propre.
Éviter en faisant envahir par les zombies. Parce que c'est
non, 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 juste que je voulais une histoire de zombies, enfin de punk surtout, parce que les zombies sont là comme des fervoirs surtout. Je voulais la faire dans un endroit que je connaissais et que, dans lequel j'habite, où j'ai habité pas mal de temps. Je trouve que c'est une belle ville, il y a plein de choses à exploiter au niveau narratif et graphique, même si c'est dessiné rien du tout, mais je pense qu'il y a énormément de possibilités dans la ville, dans l'histoire de la ville, et puis surtout, c'est, comme je la connais, ça me fait assez marrer de donner un nouveau rôle à un monument depuis la Tour Eiffel, parce que la Tour Eiffel sur la couve. Donc on est vachement habitué au niveau visuel à voir les villes américaines, enfin dans l'imaginaire, pas forcément dans le cinéma en général, mais dans l'imaginaire on a beaucoup de villes américaines, on a beaucoup de villes, on a beaucoup de Londres aussi, on n'a pas beaucoup Paris parce que la production du cinéma et des séries françaises est là en chute libre depuis pas mal de temps. Et voilà. Les Américains utilisent Paris, généralement quand ils utilisent Paris, ça fait beaucoup. Non, je me rappelle d'une série, non, c'est pas Paris, mais c'était une série américaine qui s'appelait Chuck, une sorte d'espion, mais à un moment, ils vont en Europe et le train passe devant Lyon. Et donc, on voit un petit truc qui passe, et puis derrière, on voit une sorte de montagne avec de la neige, et puis un petit chalet savoyard et marqué Lyon. Donc, ça, c'est un peu le mythe de Paris aussi. Série américaine ou dans le film américain, bon, des fois c'est fait très, très sérieusement, mais donc voilà, c'est une ville que je connais, c'est une ville dont je peux décrire une avis. Il y a des endroits dans ce bouquin, c'est vraiment des endroits où je passe quasiment tous les jours. Je parle beaucoup du bois de Vincennes, de l'ancien musée des arts océanographiques qui est devenu je sais plus quoi, le fond de l'air de Seine. Enfin, celui qui est magnifique. Voilà. Tous ces trucs-là, ça me fait plaisir de pouvoir les intégrer dans un récit qui est complètement décalé, où effectivement, tu as une bande de punks qui courent après les zombies et une bande de zombies qui courent après des punks. C'est un décor. C'est un décor, mais c'est un décor qui est pour moi vivant et qui existe.
Pas de réputation, alors, pour Paris.
Pas spécialement.
C'est la ville de Bonnard, on est dans un Paris électronique. Dans un Paris qui a été changé suite à une fin de Première Guerre mondiale qui est très différente de celle qu'on connaît. Et surtout, avec un rapport entre Paris et le reste du monde qui est très différent. C'est-à-dire que le sort différent des colonies fait que votre Paris est très différent de celui qu'on connaît. Et en fait, j'avais commencé à écrire la chute de la maison flèche d'argent comme une bitlite au XXIe siècle. Et mon agent m'a appelé et m'a dit, écoute, faut qu'on parle, techniquement c'est très bien. Après ça se voit clairement que tu t'ennuies un sens ou l'heure, donc il va falloir que tu fasses autre chose. Il s'avère que mon idée d'autre chose, c'est de commencer par raser la ville, de mettre des décombres un peu partout, des factions magiques qui s'entretuent dans les rues, et des gens qui essaient tant bien que mal de survivre dans les ruines de Notre-Dame, de la cité, et qui créent des forteresses un petit peu partout pour se protéger contre la magie. Pour voir ça comme une espèce de lettre d'amour à la ville, j'imagine. Moi, ce qui me fascine beaucoup, c'est reprendre un petit peu toute l'histoire de la ville de Paris et effectivement lui donner des caractéristiques un petit peu différentes. Et en particulier,
de gens qui viennent des colonies et qui se retrouvent coincés dans Paris après la guerre parce qu'il n'y a plus de transport, il n'y a plus d'infrastructures, il n'y a plus de rails, etc. Et donc on a des, en plus des créatures magiques, je veux dire, un petit peu classiques, donc des anges déchus, des magiciens qui se servent donc, de la magie pour faire la guerre. On retrouve des choses qui, à moi, me parlent un petit peu plus parce que ce sont des parties de mon enfance, donc des immortels, des gens qui utilisent la magie des cinq éléments et qui se retrouvent un petit peu dans une situation qui est encore plus difficile qu'elle ne l'était historiquement, c'est-à-dire que d'une part, ils font face à un environnement qui ne leur est pas forcément amical et d'autre part, une quantité de préjugés qui, évidemment, n'est pas vraiment amélioré parce que c'est d'autant plus difficile de survivre maintenant.
Justement, est-ce que quand on choisit une ville aussi, je dirais, emblématique, est-ce qu'on se fait pas un petit peu plaisir en tant qu'auteur et je dirais presque un petit peu de paresse je vais pousser un peu le bouchon, hein, mais un petit peu de paresse en choisissant ça va mal finir en choisissant un décor déjà tout fait qu'on utilise, qu'on modèle, qu'on réinstaure, enfin, qu'on réorganise à sa façon, mais un décor qui est déjà existant, qu'on peut avoir besoin d'écrire, mais pas forcément dans les détails. Est-ce que c'est pas un danger de la vie de cliché, un peu comme Karim le disait sur la façon dont elle est représentée par les Américains, ou est-ce que justement ça permet d'éviter de bâtir tout un univers?
C'est vrai qu'on décrit, je pense, beaucoup là, au niveau même des monuments, c'est parce que c'est très amusant de le faire. Par contre, c'est vrai que moi je suis partie de Paris aussi parce que c'était assez fort de commencer par une grosse ville où il y aurait beaucoup de strates temporelles à utiliser, mais aussi parce que je connais, hein, comme vous dites, et puis comme tu le soulignais aussi. En plus, mes personnages passent vraiment par des quartiers que je connais très bien, ils passent par la porte de Pantin, après ils viennent à M3. Donc voilà, j'ai vraiment
ça
aussi.
Ça parle d'activation ici.
Voilà, donc j'ai aussi choisi un environnement que je connaissais pour pouvoir ne pas faire d'erreur. Par contre, ça n'empêche pas aussi de se documenter quand mon personnage passe par le parc des Buttes-Chaumont, qui est parc qui s'est construit de toutes pièces dans le 19e arrondissement de Paris. Ben là, elle traverse la version d'avant, en fait, qui est assez étrange. Hein. C'était des buttes toutes nues, des carrières. Voilà, ça n'empêche pas, je pense, vraiment de chercher autre chose et de partir aussi dans l'imaginaire. Hein. C'est ce qui nous intéresse, nous qui sommes là, qui nous intéressons aux imaginaires. Je pense pas que ce soit vraiment de la paresse, et en même temps, c'est vrai que ça nous conforte peut-être de choisir cet environnement-là, parce qu'on sait qu'on va pas faire trop d'erreurs.
J'espère. Alors, je pense que c'est une première réponse. Beaucoup des symboliques aujourd'hui attachées à Paris me semblent pour le moins assez déréalisées, et pas vraiment en rapport avec le Paris réel déjà, qui est le Paris qui m'intéresse. Et par contre, c'est complètement assumé de prendre des lieux que je connais dans un éclat-givre. Un éclat-givre, ça a beau être un roman complètement foutraque qui se passe dans le 3e siècle, c'est mon roman le plus autobiographique. Il y a des petits passages de ce que traverse Chet, le héros, qui sont des vrais passages de ma vie quand j'avais son âge. D'ailleurs, c'est des choses que j'aime dans Paris, dans les villes en général, c'est qu'il peut arriver des choses tellement absurdes que certains des passages qui sont complètement inspirés d'anecdotes réelles dans un éclat-givre, personne dans les gens qui ne connaissent pas arrive à dire que c'est eux qui sont réels. Ils ont l'air presque plus absurdes que le reste du livre, alors qu'ils sont réels. Et pour moi, qui viens de l'imaginaire, qui ai beaucoup de mal à parler de moi, de ma vie vraiment, sans mettre tous les filtres de la fantaisie, des mondes imaginaires, etc. Au contraire, c'était une difficulté de plus de me confronter à quelque chose qui était profondément ancré dans mon autobiographie, qui était profondément ancré dans mon vécu. Donc c'était une difficulté supplémentaire, c'est aussi mon premier, pour l'instant mon seul roman à la première personne, qui était une difficulté supplémentaire aussi, certaines personnes dans la salle s'en souviennent, qui m'ont vu écrire et qui m'ont aidé à l'écrire, mais de quelque part se mettre soi-même en jeu. Et comme je l'ai fait dans ce livre, c'était à la fois quelque chose que je tenais à faire et quelque chose qui vraiment était sur le moment très chaud.
C'était une facilité ou une difficulté supplémentaire, peut-être
recherche Estelle Menetti aussi. C'est un peu une partie des deux. J'ai dû mettre une certaine compétence de recherche parce que la géographie de la ville sur laquelle je me suis basée, c'est celle de la fin de l'époque, donc juste après les dernières rénovations d'Haussmann. Donc forcément, il faut que je fasse attention à ne pas mettre des choses qui existent après. Donc typiquement, à un moment, il traversait le pont Birakeim. J'ai eu des minutes de réflexion, je me suis dit, madame, la Seconde Guerre mondiale, peut-être qu'il va falloir que je revoie ce bout-là de la narration un petit peu. Donc de même, ça y est, j'habite à Bac, qui est un roman, donc il y a plein de choses où on se dit, ça date d'il y a très longtemps, et en fait, pas du tout. Donc ça, c'est d'un certain côté, c'est un gros travail de documentation visuelle. Moi, je trouve ça, la partie documentation, c'est une des parties que je préfère quand j'écris un roman, donc c'est fascinant d'avoir. À lire la documentation et la géographie de la ville. Après, c'est aussi. J'ai pas mal profité de la facilité dans le sens que la chute de la maison Flèche d'Argent, c'est en grande partie c'est un huis clos qui se passe dans une forteresse magique qui survit de la cité, qui a été fondée il y a très longtemps, qui est la plus puissante faction magique de la ville, mais qui se retrouve attaquée par un adversaire qui n'arrive pas à identifier. Et donc, qui essaie de, au fur et à mesure qu'ils déclinent, de se défendre. Donc, à partir de là, comme ils ne vont pas beaucoup bouger, aucun des personnages, quand ils sortent vraiment un grand événement et le transport dans une ville dévastée où les gens s'attaquent et vous n'êtes jamais vraiment sûr de ne pas avoir une embuscade sur le chemin, c'est très difficile. Donc, c'est aussi une certaine facilité pour moi d'évoquer des lieux qui sont familiers au lecteur, des factions magiques, par exemple, une faction magique qui est à l'intérieur de l'ancienne Samaritaine. J'ai qu'à citer le nom et à dire deux, trois phrases et la plupart des gens sauront de quoi je parle. J'ai pas tant passé des lustres à planter le décor. Et c'est vraiment quelque chose qui sert purement à faire de l'atmosphère parce que d'un pur point de vue intrigue, c'est pas utile. Donc de ce côté-là, c'est vrai que c'est une grande facilité de décor. Et puis bon, ça me permet de me un petit peu et de mettre plein de références et tout, parce que sinon ce serait pas drôle. Mais c'est vrai que de ce côté-là, j'assume assez aussi le côté. On va planter le décor, on va éviter de planter avec tous les clichés, la tour d'Eiffel, etc. et tous les trucs des séries américaines. Très bien, mais je sais pas. C'est que comme ça, je ne savais pas comment faire non plus. Ouais. C'était un petit peu tôt aussi. Ouais. Le début de la tour Eiffel, les ruines de la construction de la tour Eiffel.
Ouais, ben moi, c'est. Oui, c'est pas une facilité ni. C'est un choix, c'est un choix. Moi, je voulais que ça se passe à Paris parce que il y a aussi, comme tu dis, la tour Eiffel, mais c'est des monuments qui sont symboliques. Il suffit de marquer tour Eiffel et 90%, on va dire même 99% des lecteurs savent ce dont on parle. Et même pour le Sacré-Cœur, alors on ne connaît pas forcément les raisons de la construction du Sacré-Cœur, mais en général, on les connaît. Il y a un passage qui se passe dans château de Vincennes. Donc, on connaît le château de Vincennes, c'est des lieux qui sont emblématiques, hein, qui sont emblématiques de l'histoire de France, de la culture parisienne et française en général. Donc tout ça se retrouve confronté à un apocalypse où ils ont grande chance de passer à la trappe. Mais des personnages qui vont se retrouver dans un Paris vide et qui vont pouvoir faire enfin ce qu'ils ont toujours rêvé de faire, c'est-à-dire, bon, en l'occurrence, c'est des poèmes, donc ils font des conneries, mais c'est un peu un rêve de se retrouver dans Paris pendant 10 ans, 24 heures. Il n'y a plus personne dans Paris, vous faites ce que vous allez, vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous rentrez dans n'importe quel appartement. Et comme vous habitez peut-être à Épinal, à Rennes, à Bordeaux, je ne sais pas. Donc c'est des villes que vous connaissez depuis plusieurs années, mais c'est vrai que des fois il y a des façades. Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans les sous, dans les cryptes de la Tour Eiffel? La bien nommée crête de la Tour Eiffel, on a plus sérieusement des choses qui existent vraiment. Et puis c'est marrant d'exploiter ça, de regarder les plans, de se dire, ah bah tiens, effectivement, le Sacré-Cœur, il y a cette partie qu'on ne voit pas quand on visite, on peut y mettre quelque chose, on peut s'amuser avec les personnages, et ça donne une base narrative qui est assez forte. Et moi, personnellement, le faire dans faire la chose dans une ville que je ne connais pas, ça m'intéresse moins. Ou alors c'est une ville que j'invente complètement, quoi. Et d'essayer d'imaginer ce qui pourrait se passer, je ne sais pas, un lieu que j'ai jamais mis les pieds, j'ai été partout, je crois. Mais je ne sais pas, Nancy, je n'ai jamais été à Nancy, par exemple. Je ne me sentirais pas... aussi à l'aise, je ne comprendrais pas. Il faudrait quand même que je prenne un billet de train que j'ai passé une semaine pour voir quel bâtiment. Puis il y a des plus beaux bâtiments, il y a des bâtiments qu'on a envie de citer. Il y a des endroits, qui marquent. Est-ce qu'ils sont beaux ou est-ce qu'il correspond à quelque chose au niveau du véhicule?
Est-ce qu'on ne va pas tous. Moi, je suis parisienne aussi, donc je peux comprendre la fascination et la répulsion, mais on n'a pas tous ce que vient de dire Karine, cette fascination pour Paris au mois d'août, ou Paris à 5h du matin quand il n'y a personne dans la rue et où il y a le moins de monde possible et où éventuellement on peut la fantasmer la vie d'une façon un peu différente de son agitation du quotidien. Est-ce que c'est un peu ça qu'on trouve derrière les murs qu'on ne peut pas franchir?
Moi, ce qui me fascine, c'est les gens, en fait. Donc, j'allais dire que c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est plus essayer des... Alors, après, ce serait pas... Forcément, c'est un contexte différent dans lequel je pars, puisque c'est une ville chronique. Mais moi, ce qui me fascine, c'est vraiment imaginer comment aurait fonctionné cette société où, finalement, la magie joue un rôle assez important, où c'est une ressource qui est très puissante, mais finie. Donc, où les gens essayent de... À partir de là, imaginez tout un nouvel équilibre politique où, à la place d'avoir donc, ce qu'on avait à la belle époque, une démocratie, etc., on a plutôt un système qui finalement est un petit peu sorti du féodal, mais pas excessivement, et où on a des maisons qui redeviennent des forteresses parce que c'est juste la meilleure façon de se protéger. Et plutôt que de chercher à tenir toute la ville, ce qui n'est pas possible, plutôt se concentrer sur quelques rues, quelques maisons, quelques immeubles. À contrôler, dans lesquels on est sûr qu'il n'y a personne qui va essayer d'attaquer et laisser finalement tout le reste partir à l'abandon. Et enfin, personnellement, moi, ce qui m'a le plus amusé dans le roman, c'est de faire toutes ces espèces de négociations politiques, d'intrigues magiques, de gens avec des visions très différentes de qu'est-ce qu'il faut faire pour survivre. Est-ce qu'il faut essayer de se replier au maximum? Est-ce qu'il faut plutôt protéger les siens à tout prix, même si de temps en temps, il faut sacrifier quelques-uns des siens? Il y en a qui pensent que c'est parfaitement acceptable, il y en a qui sont un petit peu moins enthousiastes, et forcément, quand vous les mettez en face et qu'ils essaient de négocier, ils partent pas forcément de la même façon. Ça me fascine de mettre en fait des gens d'horizons très différents dans la même pièce et de voir que de temps en temps ils arrivent à se comprendre et puis de temps en temps ils sont juste complètement à côté de la plaque sans nécessairement malice ou mauvaise compréhension, juste parce que par leur vécu ils viennent d'endroits très différents et ça, ils ont du mal à imaginer comment quelqu'un d'autre pourrait penser de manière complètement différente.
Oui, bien sûr, c'est juste pour rebondir sur ce que vient de dire si bien Karine Bianchi que de Godard. Il y a deux choses qui m'ont frappé. Déjà, ce que vous disiez sur les gens, je suis entièrement d'accord sur le fait que pour moi, une ville est composée au moins autant des gens qui y vivent, des gens qui la vivent et des gens qui y ont vécu, des histoires qu'ils y ont laissées, que des monuments. Et aussi, on y va dire, évidemment, quelques monuments célèbres de Paris, parce qu'ils ont ouverture, mais qui ne sont pas traités différemment des endroits plus quotidiens, parce que finalement, quand on vit une ville au quotidien, enfin, c'est plus cliché de dire que les Parisiens, c'est les derniers à aller voir la Tour Eiffel. Quoi. C'est... Et les endroits qui nous marquent dans une ville, qui sont notre ville, celle qu'on vit, ça va être aussi bien le café où on a l'habitude de se trouver, même plus par moment que le musée qui est à l'autre bout de la ville, ou que le Grand Palace, de toute manière, on ne trouvera sans doute jamais quand on choisit certaines voies, par exemple la culture. Et il y a aussi quelque chose que j'ai vraiment envie de défendre, c'est de montrer pour moi les plus beaux endroits de Paris. C'est pas forcément les plus vantés, les plus voilà, les plus cartes postales, les plus brochures touristiques. Il y a des coins qui ont une âme et qui méritent vraiment d'être mis en avant, qui ont une âme, qui ont une histoire et qui sont des petits coins pas connus. Mais c'est cela aussi que j'ai envie de défendre et j'ai envie vraiment de faire percevoir leur charme au lecteur. Autant que celui donc, de Montmartre ou de la Grande Bibliothèque François Mitterrand.
C'est du tout le monde, hein, donc ça. Le roman est là, mais c'est pas les gens, mais bon. C'est la forme d'os, ils sont là, mais il y en a beaucoup, mais il y a plus de gens. Donc effectivement, c'est, les rues sont vides et le personnage principal a tous les loisirs d'explorer, enfin, assez vite, quoi, ce Paris apocalyptique. Et aussi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup séduite dans c'est une trilogie, mais c'est dans le tome 1, je crois.
dans les villes, il ne vaut mieux pas être traîné, donc les gens sont beaucoup à l'extérieur, mais pour une raison que je ne me rappelle plus, j'ai eu l'espoir longtemps, ils sont obligés de revenir dans Paris chercher quelque chose, et Paris est complètement vide et investi par ce qu'ils appellent la mort en bille, ces plein de petites billes, des bulles blanches qui s'y montent sur les gens, les dévorent. Et cette traversée de Paris, ils arrivent par le sud, pas le 14e, je crois, ils vont à la place d'Enfer-Rochereau et le personnage se tape un délire hallucinatoire avec le lion, la statue du lion, sur la place, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué en fait comme scène. Et je trouve voilà, ce Paris vide, investi par la mort, par l'apocalypse, donne lieu à des scènes parfois stupéfiantes dans les romans de SF et de fantastique.
Il y a un truc je me suis fait un petit plaisir, mais ça peut être avec n'importe quel bouquin qui parle de n'importe quelle ville. C'est donc il y a des scènes, pas les mêmes scènes, mais des scènes qui se passent dans des lieux. Donc après, elle aura écrit, maintenant que le bouquin est sorti, des fois je passe dans ces coins-là, genre ça peut être la place de Manille où il y a aussi des lions, vous avez même. Et je me pose et puis je regarde et puis j'essaie d'imaginer l'histoire du livre. Et ça, je trouve ça assez marrant. Alors, je ne le fais pas qu'avec le mien, je le fais avec des bouquins qui parlent de Paris, parce que je suis souvent sur Paris. Donc, je pense qu'on peut le faire avec n'importe quelle ville, mais vraiment se poser sur le. De se retrouver dans un endroit qui est réel, tout d'un coup, on sent la fiction et on essaie d'imaginer n'importe quel roman de fiction qui a. N'importe quelle scène qui nous a marqué, ça me fascine un peu.
C'est vraiment une de mes questions, c'est est-ce que ça vous arrive de vous dans l'expérience, est-ce que ça vous arrive de vous balader dans Paris et d'avoir des flashs quasi historiques? Enfin, moi je me souviens, il y a pas loin du Louvre, il y a un passage qui s'appelle le passage de Rohan, qui est une espèce de passage couvert avec des pavés jusqu'à présent. Il y avait des pavés et on pouvait presque entendre, enfin moi j'entendais le bruit des carrosses, quoi. C'est un passage qui est autour du Louvre et qui est très très historique. Le passage a été, les pavés ont été remplacés par du goudron et du coup, il y a quelque chose qui a disparu complètement historique dans le. Donc, est-ce que vous vous baladez dans Paris? Est-ce que c'est une source d'inspiration littéraire et imaginaire? Est-ce que de toute façon c'est une ville qui est propice à l'imaginaire fantasy ou à l'imaginaire science-fiction? Est-ce que c'est plus que d'autres endroits?
En tout cas, donc, moi je me balade dans Paris déjà parce que simplement. Les transports en commun étant ce qu'ils sont, et puis comme j'aime bien marcher pour aller d'un endroit de rayon à un autre, je vais en marchant. Donc, et puis aussi, je me balade dans Paris parce que j'aime bien. Et le livre est né de ça, est né vraiment de tout l'imaginaire qui imbibe cette ville et qui faisait que j'avais des visions justement différentes, des visions de la ville autrement. Et c'est ça qui a créé la ville de Givre. Et oui, aussi, ce qu'il y a dans Paris, mais je pense dans toute ville qui a une histoire, c'est qu'on sent qu'il y a des couches et des couches d'histoire, on sent que la ville elle-même a des histoires à nous raconter. Et ça, c'est évidemment super intéressant pour un auteur, a fortiori un auteur d'imaginaire, c'est-à-dire quelqu'un qui, je pense, veut sortir un petit peu de sa carcasse pour aller voir plus loin que son époque et aussi bien plonger dans les racines du passé de la ville et en même temps, donc, aller voir peut-être dans l'avenir. Et Paris aussi, pour moi, je ne sais pas si c'est pareil pour les autres participants à cette table, c'est une ville qui existe. Il y a quand même eu tellement de romans, de grands romans fondateurs qui ont été écrits dans Paris, sur Paris, que finalement, dans Paris, je veux dire, quand on est par exemple dans le coin des grands magasins, moi je vois autant le bonheur des Dames de Zola et de Cavouret que les grands magasins réels. Évidemment, donc Notre-Dame, là je ne veux pas faire la liste de romans sur Notre-Dame, ça serait idiot, mais voilà, ou par exemple des petites choses, mais la rue de la Huchette, moi j'étais une grande fan des contes de la Huchette quand j'étais enfant, donc tout de suite j'y pense quand je vois cette rue-là, enfin, c'est. Et je vois autant le regard. Ah, mais c'est vraiment, et les personnages, et notamment dans les contes de la Huchette, il y en a un où c'est un musicien errant qui joue sous les porches, qui voit passer une barque avec une très belle femme dessus, mais très pâle, très blanche. Et cette vision-là, elle m'a marqué quelque part, elle superpose à ma vision réelle de Paris. Tant justement, donc je traverse la Seine dans ces coins-là, quoi. Donc c'est une ville qui a tellement de dimensions à la fois imaginaires, culturelles, historiques, que forcément c'est un super terrain de jeu pour les auteurs.
C'est vrai, moi je ressens ça aussi beaucoup. Après, au-delà des rues connues très historiques, ce qui m'a vraiment inspiré pour la mort du temps, c'est j'habite dans un quartier très populaire où il y a beaucoup d'habitants qui sont insolubles, donc qui sont en face d'être détruits. On voit, comme ils sont à moitié écroulées. On voit en fait l'intérieur des immeubles et vous voyez sur le mur les anciens papiers peints des gens. Ce sont des papiers peints complètement désuets, qui sont en train de s'écailler, la peinture qui part, qui se délave. Je trouve que voilà, moi ça m'a évoqué cette forme de Paris fantôme en fait, un peu du passé qui est là, dans ces immeubles qui vont disparaître. Et les terrains vagues, enfin, voilà, pas forcément ce Paris historique auquel on pourrait penser au premier lieu, mais aussi ce Paris
Certains sont les papiers peints, parce qu'effectivement, sur les façades des immeubles, quand on déconstruit un immeuble, on voit la trace de la baignoire.
De l'intimité aussi, ouais. Les gens qui vivaient là, c'est assez touchant.
Bon, et est-ce que c'est pas aussi un petit peu. Parce que Paris, il m'a semblé que dans tous vos romans, avec ou la déconstruction, ou l'Uchronie, ou l'invasion, ou le néo-Paris, il y avait une idée que c'était un peu la ville idéale pour faire une vraie révolution, que ce soit une révolution anarchiste, musicale, peu importe, mais un endroit dont on peut repartir de façon plus saine que de New York, par exemple, qui soit un truc plus. Plus emblématique ou plus fort sur un futur possible. Karine, vous ne construisez pas vraiment.
Non, pas spécialement, enfin, juste que je voulais que ça se passe à Paris, parce que pour plein de raisons que j'ai évoquées, et puis parce que voilà, mais soit j'aurais pu très bien le faire à Pouillon, donc soit.
Pour l'anarchie, Pouillon, donc soit c'est possible aussi.
Ouais, ça aurait été plus simple, alors il y a moins de problèmes après. Non, c'est juste, voilà, c'est pour lui.
Après, moi j'étais parti, c'est vrai qu'en inspiration, moi je suis plutôt parti du 19e siècle, donc en particulier. Donc, je trouve le 19e siècle absolument fascinant. C'est d'une part, c'est un siècle qui est super tumultueux, donc on compte même plus la révolution, les guerres, les barricades, etc. Le nombre de régimes politiques différents sur lesquels a été la ville. Et c'est aussi le siècle où, à la fois d'énormes progrès technologiques et scientifiques et d'inégalités qui. Je ne sais pas si s'aggraver est vraiment le terme, mais qui partent complètement. On voit très nettement un changement social vers des classes qui sont hyper gentilles, hyper riches, qui ont quasiment tout, et d'autres classes, les classes ouvrières, etc., qui elles n'ont vraiment rien, qui vivent dans une misère noire. Et une grande partie du 19e siècle, c'est les balbutiements d'essayer d'avoir des droits pour ces classes-là, etc. Donc, quand j'ai fait mon nouveau Paris complètement dévasté, ça c'est vraiment pas. J'ai repris ce système d'inégalité et il est en fait devenu pire. Parce que dans un système de ressources très très peu disponibles, forcément il n'y a pas vraiment besoin que l'humanité se comporte très bien. Je ne suis pas vraiment une personne très très optimiste, je tiens à le dire tout de suite. Mais après, c'est vrai que j'ai mon personnage, un de mes personnages principaux, je vais y arriver, quelque part un petit peu l'anarchiste de service qui sans travailler contre un système qui est complètement inégalitaire et qui est complètement fait rouler la terre et qui rêve que d'une chose, c'est de le faire tomber, mais qui vraiment est à l'état de balbutiement de mais comment est-ce qu'on peut même commencer à attaquer comme ça un système dans lequel quelque part tout le monde a des intérêts et même les gens qui sont en bas de l'échelle n'arrivent pas à s'en sortir, parce que pour s'en sortir il faudrait accepter que prendre le risque de ne pas survivre en fait. Donc c'est des questions que je trouve très, très intéressantes, mais pas forcément évidentes à résoudre. Et ce sera peut-être la révolution, mais pas tout de suite.
Mais c'est vrai que Paris peut être au cœur de ce type de combat que tu décris dans la fiction. Moi, ça me fait penser à la bande dessinée, à la Kibila, la Forêt Immortelle. Vous avez cette division des quartiers. Alors, j'ai lu très 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 longtemps, je ne me rappelle plus bien. Mais il y a un Paris très pauvre et un Paris très nantis. Et ça repose sur cette opposition-là. Aussi, une opposition. Moi, je suis fan de ce roman absolument démente qui se passe à Paris, c'est Rien ne nous survivra, de Maya Mazorette. Dans Paris, ça repose le combat des jeunes contre les vieux. Et les jeunes vont. Massacrer tous les vieux, sachant que les vieux c'est au-delà de 25 ans. Donc Rien ne survivra de Maya Mazorette, c'est l'histoire de l'opposition de deux snipers, un dans chaque camp, un qui partie des jeunes. C'est un roman complètement fascinant qui se passe dans Paris, dans un Paris apocalyptique, est-ce qu'on peut le dire. Donc voilà, encore sur ces luttes, cette dualité que tu évoquais.
Christelle, avec un héros jazzman, est-ce que Paris est une ville de lutte pour lui ou une ville de musique
Les gens étant quand même aussi du post-apo, donc il y a forcément de la lutte, ne serait-ce que de manger, c'est pas évident. Surtout que voilà, il fait clairement pas partie des classes privilégiées. Et en plus, donc, le choix est chambre du jazz, qui évidemment n'aurait pas son âme. Donc voilà. Après, évidemment, aussi un éclat de livre, ça parle de liberté. Et c'est un héros qui cherche avant tout à être libre. Et quelque part à sauver tout ce qu'il peut y avoir comme liberté dans sa ville. Ça, c'est un thème qui me tient à cœur dans à peu près tous mes romans. Après, en écoutant justement les questions, les discussions, je m'aperçois que la tradition vraiment révolutionnaire française, et notamment parisienne, qui me parle complètement, et que j'aime beaucoup, finalement, le côté révolutionnaire, c'est pas au cœur dans les clavistes, parce que quelque part, la grosse remise en question qui a eu lieu au moment de la catastrophe, qui a détruit 90% de la planète, c'était 100 ans avant le début du roman, donc ça a déjà eu lieu en fait, on est déjà dans l'après. Et mon roman qui parle de révolution, c'est celui qui était sur l'affiche tout à l'heure, c'est Les Seigneurs de Bohème. Donc quelque part, pour parler de révolution, je suis partie faire de la fantaisie dans des ambiances d'Europe de l'Est. Et voilà, où là c'est vraiment comment on fait une révolution avec cette fois, notamment des villes de fantaisie, une capitale de fantaisie, avec oui, le côté justement vraiment très stratifié, les énormes écarts entre les très riches et les très pauvres, et puis là, le ferment, la flamme révolutionnaire qui s'étend et qui va tout renverser, et voilà, parce que ça fait plaisir aussi quand même.
Je me dis, les Russes sont pas complètement pas doués pour la révolution.
Ah oui, mais complètement aussi, il y a toute une littérature et un cinéma de révolution russe qui fait partie des sources d'inspiration de Boyle aussi, et voilà.
Est-ce que quand on est un auteur qui choisit Paris, on n'a pas aussi envie de lutter? Alors bon, même si vous modifiez beaucoup, est-ce qu'on n'a pas envie de lutter contre les clichés? Est-ce que c'est pas typiquement, comme le disait un peu Karim tout à l'heure, la ville qu'on imagine avec un vieux bus, un monsieur qui a un béret, une baguette, enfin quelque chose qui est assez très, qui est désagréable quand on voit les Américains montrer Paris, sauf si quand c'est Tom Cruise qui vient tourner l'émission Impossible 12. Sinon, c'est vrai que c'est une ville propice aux clichés, quoi. Les gens s'imaginent qu'on est tous
qui ont des clichés. Un peu montré ça, des clichés comme ça. Mais non, mais moi j'aime bien les clichés. Hein. Les zombies, c'est du cliché. Mon côté, c'est un peu du cliché. Donc, pareil, ça tombe bien dans le cliché. La tour Eiffel, pareil. Ouais. Après, on en fait ce qu'on veut. On prend les archétypes et puis soit on fait la même chose que tout le monde, soit on essaie de trouver des trucs un peu originaux, quoi. Donc, moi j'aime bien ce côté de Paris pour ça, mais je ne l'ai pas fait pour ça non plus.
Est-ce que tout d'un coup introduire des personnes qui viennent de colonies et qui sont très différentes du parisien tel qu'on s'imagine, c'est pas une façon de combattre le cliché de la ville?
En fait, moi j'essaie de faire quelque chose qui serait un peu genre Le Comte de Monte Cristo et Les Misérables, mais avec un petit peu plus de dialogue avec les colonies et de personnages qui soient coloniaux, donc quelque part. J'ai quand même sorti en anglais d'abord, donc aux États-Unis et au Royaume-Uni. C'est vrai qu'il y a une certaine attente quand on écrit ce type de roman, en particulier ce type de roman qui se passe
c'est en pensant à vous qui avez écrit, mais est-ce que prendre Paris pour lieu de son roman, c'est pas ça, c'est un équipe touristique. Donc j'avais bien pensé qu'effectivement, il y avait des gens qui pouvaient le voir de cette façon-là. Du coup, dans votre tome 2, puisqu'il y a un tome 2, est-ce que vous continuez à ne pas faire le guide touristique?
Absolument, ne pas faire le guide touristique. En fait, le tome 2 qui s'appelle Dans un Bad Influence, qui est sorti pour le en anglais, mais qui va sortir en français début 2018, se passe donc partiellement au Thaï, et partiellement dans la Côte d'Or, et partiellement à Saint-Ouen. Donc j'essaie de prendre des endroits qui ne sont pas forcément des endroits hyper touristiques, et après c'est vraiment du point de vue de pas de gens qui y habitent et qui ont des... C'est vraiment quand on y a le Québec, la Côte d'Or, ça me donnait très très envie, il y a plein de gens de venir visiter.
Non, puis voilà, la Côte d'Or version post-apocalypse magique, c'est vraiment pas fun. Enfin, déjà version 19e, parce que c'était pas très fun, mais alors... aussi d'écrire un truc post-apocalyptique et de lire des documents sur le 19e siècle, c'est de trouver des trucs pires. Parce que franchement, quand on lit des trucs sur le 19e siècle, on se dit en fait c'était tellement horrible que des fois je me dis mais il n'y a même pas besoin de faire de la fiction. Quoi. Genre les 15 à 20% de mortalité à la naissance à l'hôpital, bon ben voilà, enfin, qu'est-ce que je peux faire de pire clairement. Aurélie, est-ce qu'il y a aussi cette volonté de pousser, peut-être de les séparer derrière soi et de s'en dégager pour aller vers quelque chose de plus, je sais pas, il m'a semblé que cette façon de détruire tout en cercle concentrique qui s'éloigne, c'était une façon de dire je laisse des choses derrière moi et je vais sur du neuf.
Peut-être je n'y ai pas pensé. Après, c'est vraiment, pour les personnages, je l'ai eu très mal. Hein. Vraiment, c'est pas porté par un espoir d'aller vers quelque chose de meilleur. Il y a une catastrophe qui la suit, en fait. Donc, je suis pas, en plus, c'est vraiment une fille des villes. Donc, elle aurait bien voulu pouvoir rester. Alors, l'autre, elle choisit aussi de se diriger vers d'autres villes comme Reims par la suite, ou d'autres dans la suite du roman. Donc, je pense qu'elle est quand même aussi attirée par les villes pour essayer de retrouver des gens, pour pouvoir se rattacher à quelque chose de plus normal. Mais voilà, oui, c'est une façon de dire qu'effectivement, on laisse derrière soi le passé pour se tourner vers l'avenir. Pendant la mort du temps, on est en train de faire le passé d'avenir. Il n'y a plus rien, hein. tout est éclaté, tout est un espèce de présent perpétuel. Sur les influences, parce que je trouve ça intéressant, Georges qui évoquait Bordage. Moi, je pense au Feu de Dieu, qui est un roman qui aussi part de Paris. C'est une apocalypse qui se passe dans le monde entier, hein. Mais le personnage, il se trouve qu'à ce moment-là, il est dans Paris, et donc il y a c'est le début du roman, il est absolument fascinant, il y a la scène qui se vide, il y a un pont qui se fracture, je ne sais plus quel pont c'est. Sur lequel est le personnage, et lui aussi il part pour rejoindre sa famille qui est restée dans le plus au sud de la France. Donc un peu comme les personnages, lui il part au sud, moi il part à l'est, mais il y a ce périple dans une France post-apocalypse avec l'urgence de retrouver ses proches.
Estelle, sur les clichés ou ouais. Enfin, sur la volonté de quitter la ville,
donc disons sur la volonté de quitter la ville dans les clés de givre. Les gens ne savent pas s'il y a des choses qu'on survécu en dehors de la ville. Il n'y a plus moyen de communication. Il y a donc Tel, c'est la mise en France du héros, donc il est secrètement amoureux, mais il ne lui dira jamais parce que bon, c'est jet, qui, elle, rêve de quitter la ville et qui pense qu'il y a encore des forêts quelque part en Sibérie et elle veut voir des forêts. Et voilà, il y a des personnages qui rêvent d'ailleurs, qui veulent voir des ailleurs. Mais quelque part, Jet, lui, c'est vraiment, il a une relation tellement symbiotique avec sa ville que d'ailleurs, ça lui manque pas en fait. Qui vit sa ville, que c'est son univers. Et ce qu'il va apprendre au fil du livre, c'est quelque part qui transporte, enfin lui qui est très solitaire quand même, malgré malgré tous ses coups de cœur, malgré toutes les relations qu'il a et qui finalement ne l'atteint jamais profondément, il va apprendre à qu'on travaille toujours son passé avec soi, mais que finalement c'est pas si mal.
quelque part être riche de se passer de voilà, même des mauvais souvenirs, même des blessures, même des cicatrices, ça fait partie de sa richesse, ça fait partie de ce qu'il construit, ça fait partie de ce qui fait qu'il est finalement jamais vraiment seul. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans Paris, c'est que voilà, c'est une ville qui s'est construite en assumant toutes ces strates de passé, aussi bien culturelles que enfin, tout ce qu'on a évoqué. Et au contraire, moi je suis vraiment pour que le fait d'assumer ce passé-là, d'assumer tout ce qu'on a vécu, tout ce que la ville a vécu, tout ce qu'on a rêvé, tout ce qu'on a fait de mal aussi, finalement c'est constructif et c'est libérateur. Et pour aller vers l'avenir, il faut vraiment assumer le passé, prendre ses racines dans le passé complètement. Donc je ne suis pas du tout en train de quitter Paris. Donc voilà, je pense qu'on va s'affronter au fur et après la table ronde avec Corée.
Ensemble dans Paris. Super. Est-ce qu'on peut donner aux non-parisiens ce qui pour vous est l'endroit où que vous ne voudriez pas voir disparaître, la chose que vous préférez dans cette ville qui vous inspire ou qui vous plaît, dans lequel vous vivez au quotidien et vous avez envie de pas voir s'en aller? Est-ce qu'il y a quelque chose en Paris qui est au-dessus de tout pour vous?
Ouais, le parcours au Disney.
C'est en dehors de Paris, il m'en friche. C'est en podium, c'est loin.
La piscine, il y avait un parc ou la piscine Molitor. Il y avait un parc d'attraction dans Paris qui s'appelait Luna Park. C'était assez joli d'ailleurs. Il y avait des photos des années 50-60. C'est super kitsch, super joli. Bon, ça n'existe plus. Il y avait la foire du trône. Vincennes, avant, était sur le trône, était jusqu'à la place Nation.
C'était sur le trône de Vincennes, la reforme de Vincennes.
Oui, maintenant, c'est là. Maintenant, c'est actuel maintenant.
C'est l'attraction. Et on peut dire que les CRS sont des super formats.
Mais c'est des vrais métiers.
Je suis en train de donner des tuyaux là.
imaginaire.